j'allais vous souvenir aussi que Mitterrand était allé en Allemagne de l'Est parler avec le nouveau gouvernement, le maire de Dresde, par exemple, pour sonder avant que la réunification se fasse, si c'était vraiment voulu et si c'était vraiment imminent. Donc la position française à ce moment-là, pour vis-à-vis de la réunification, était vraiment très très... Comment on peut dire? Qu'est-ce que vous direz?
Circonspecte.
Ambigu, hésitante, oui, parce qu'il fallait un petit peu pousser. Et puis si... enfin, certaines sources disent que c'était aussi une négociation autour de l'euro qui finalement a fait que la France a donné son accord pour la réunification. C'est-à-dire, grosso modo, on pourrait dire l'Allemagne a donné son accord pour abandonner le mark et la France a été d'accord pour accepter la réunification sous cette condition. J'ai vu il n'y a pas longtemps, il y a une semaine au FIPA à Biarritz, un documentaire sur Gorbatchev où il était censé raconter sa vie. Et j'ai regardé un petit peu et j'ai rien appris de nouveau. Ça, c'est un chapitre où l'Allemagne était vraiment dans une sorte de nombrilisme, parce qu'à partir de 89, pendant 2 ou 3 années, tout tournait autour de la réunification. C'était une période que j'ai vécue, heureusement, et c'était vraiment la période, je pense, de ma vie qui était la plus impressionnante. J'étais jour et nuit sur les routes de l'Allemagne de l'Est, tous ceux qui savaient à peu près tenir une caméra et poser des questions étaient bienvenus pour les médias, parce qu'il y avait tellement de choses à faire que ça a tenu pendant 2 années et demie pour travailler en Allemagne de l'Est. J'ai fait aussi des tournées en France pour savoir ce que les Français en pensaient, et 89-90 était de ce côté-là aussi très intéressant, parce que ça a amené une nouvelle dimension aussi aux relations franco-allemandes. Je vous explique de quelle manière je vois ça. Jusqu'à 89, Berlin n'était pas la capitale de l'Allemagne. Hein. C'est devenu en 93, il me semble. Donc c'était Bonn. Bonn est une petite ville à côté de Cologne qui n'est pas vraiment explosive. Hein, c'est une ville qui n'était pas du tout appréciée, par exemple, par les correspondants étrangers. Donc quelqu'un de TF1 à qui on dit « vous irez à Bonn », il va dire « oh là là, c'est vrai que j'ai eu Hong Kong et Londres, c'était sexy, mais Bonn ». Aujourd'hui, vous demandez à quelqu'un « est-ce que vous voulez aller à Berlin ?» Un gars de la télé ou de la radio, il y va, il n'y a aucun problème. Parce que c'est la ville la plus sexy qu'il y a en Allemagne et la plus intéressante, et tout était à refaire, tout est en train de naître. C'est vraiment la ville aujourd'hui parmi les plus intéressantes capitales en Europe. Par contre, donc ça a augmenté un petit peu le nombre de correspondants français en Allemagne. Et puis c'est pas les plus mauvais. Donc aujourd'hui, si dans les médias vous avez les informations sur l'Allemagne, la qualité des informations a beaucoup augmenté depuis à peu près 10 ans, parce qu'il y a les gens qui sont ambitieux qui sont allés là-bas, et les quelques rares qui étaient là avant, qui faisaient bien leur métier, ont aujourd'hui vraiment une bonne concurrence de jeunes correspondants qui sont intéressés par ce qu'ils font et qui font ça très très bien. J'en ai formé quelques-uns et j'en ai rencontré d'autres. Je suis assez optimiste par rapport à l'information qui passe la frontière, donc de l'Allemagne vers la France. Maintenant, il y a un bémol, c'est que côté nombre, et ça pourrait encore un petit peu augmenter. Quand vous prenez les chiffres, par exemple, vous avez, qu'est-ce que vous diriez, combien vous avez de correspondants français pour les médias français à Berlin? Juste comme ça. 200? Ah, je voudrais bien. Il y a l'agence France Presse qui a son bureau principal en Allemagne à Berlin, qui fournit déjà 20 personnes. Donc 20 personnes qui sont employées par l'agence France Presse. Après, vous en rajoutez 15, vous allez arriver au chiffre de 35, vous êtes bon. C'est ça, 35 correspondants français à Berlin. Combien il y a de correspondants allemands à Paris ?
100.
100. Pas mal, oui, 135. Ah. Voilà. Donc, c'est dû aussi à une meilleure santé des médias, surtout de la presse écrite en Allemagne, de la presse magazine économique, par exemple. Et puis, c'est dû aussi en partie à un plus grand attrait de tout ce qui est le monde français, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de correspondants qui couvrent aussi, à partir de Paris, le Maghreb, qui couvrent les pays francophones d'Afrique, etc. Donc, il ne faut pas trop non plus exagérer cette différence, mais bon, il y a encore des choses à faire hein, côté français pour s'intéresser vraiment à l'Allemagne, il y a encore des choses à faire. Par contre, ce qu'on voit, ce qui est la qualité, elle est vraiment très très bonne. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc, 89, c'était vraiment la grande année où les Allemands se sont redécouverts. Il reste toujours deux Allemagnes. Si vous êtes aujourd'hui en route en Allemagne, allez-y, vous allez le remarquer. C'est toujours pas homogénéisé. Et pourquoi ? Ça devrait être homogénéisé. C'est très bien comme ça. On a deux évolutions de deux parties du même peuple, la même nation, qui ont été complètement différentes. Et je le vois encore aujourd'hui. Moi, je l'ai expérimenté donc deux fois. J'étais avec une Allemande de l'Est. Et évidemment, donc, les mentalités sont vraiment très différentes. Vous voulez savoir pourquoi ? Bah, écoute, Bailey-Lin est déjà une bonne base, une bonne caricature aussi parfois, mais c'est plus détaillé que ça, c'est plus fin que ça, parce que ça regarde toute l'attitude. Ça concerne toute la vision de la vie, c'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes ambitions déjà. Donc les Allemands de l'Ouest sont très souvent ressentis comme des gens qui s'imposent, qui discutent pas très longtemps, mais qui veulent, qui imposent, qui sont sûrs de ce qu'ils veulent, et ils vont l'imposer. Un peu moins orientés vers convivialité et vers le noyau de la famille. Ça, c'est l'évolution de l'Allemagne de l'Ouest, évidemment, gérant de l'Europe de l'Ouest. Et la famille a une plus grande importance, et le réseau social, surtout, aussi une plus grande importance en Allemagne de l'Est, où on est beaucoup plus, les gens de l'Ouest, diraient c'est du cocooning ou quelque chose comme ça, mais non, ce sont de vraies relations sociales qui existent de façon beaucoup plus intense en Allemagne de l'Est qu'en Allemagne de l'Ouest. Et je peux vous citer plein d'exemples, c'est dans la vie quotidienne, c'est vraiment très très clair. On se parle plus, on se téléphone plus, on tient plus les liens, on est plus près. On prend plus de temps à parler, on a moins la télé allumée quand on parle, y a plein de choses comme ça. Donc, et puis après, donc les ambitions dans la vie professionnelle sont bien différentes aussi. Moi, je me fais taper sur les doigts quand je bosse trop. Et il y a vraiment plein de choses qui viennent d'une éducation bien différentes et qui vont encore rester comme ça. Il y a un quotidien de Berlin qui est apparu l'année dernière pour souligner un petit peu cet effet de réunification. Ils ont laissé dans l'édition destinée à Berlin-Est toutes les plages blanches qui concernaient les informations de Berlin-Ouest. Et dans leur édition de Berlin-Ouest, ils ont laissé toutes les plages blanches qui concernaient les informations sur l'ancienne Berlin-Est. C'était assez intéressant parce que c'était vraiment moitié-moitié. Il y avait la moitié du journal qui n'était pas imprimé, enfin qui était, bah, c'était blanc. Et c'était pour dire, tiens, voilà, bon, il y a un taux d'intégration qui marche, mais ça c'est vrai pour Berlin, parce que Berlin était la jonction entre l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est, mais c'est pas vrai pour le reste du pays. Et c'est surtout aussi une question économique. Et là, si vous allez aujourd'hui chercher la présence française en Allemagne de l'Est, où est-ce que vous la trouvez? Où est-ce que l'économie marche le mieux? C'est là qu'elle est, c'est-à-dire elle est dans le sud de l'ancienne Allemagne de l'Est. Elle est en Saxe, elle est en Thuringe, elle est un petit peu au Rondebourg, mais pas beaucoup, évidemment, beaucoup à Berlin aussi. Et pas trop dans le Mecklembourg, pas trop dans le Nord, parce que c'est toujours c'est resté, à cause de son caractère rural, une région qui est vraiment en difficulté économiquement parlant. Ça, 89 a été le point de départ d'une autre vision des Allemands par eux-mêmes. Quand vous voyez en 90, 91, 92, les surfaces publicitaires en Allemagne, surtout en Allemagne de l'Ouest, vous disiez, connaissant la France, tiens, mais on a maintenant les mêmes réflexes qu'en France. En France, vous avez des enseignes comme Carrefour, comme plein d'autres qui jouent avec les couleurs françaises, avec le bleu, blanc, rouge. En Allemagne, on n'avait pas l'habitude de ça. Et après la réunification, tiens, à un moment donné, au début des années 90, on voyait de plus en plus de produits qui imitaient aussi les trois couleurs du drapeau national. C'était très prisé par les publicitaires en début des années 90. C'était un signe extérieur. Après, toute l'attitude de l'Allemagne petit à petit a changé. Une nouvelle capitale pour toute l'Allemagne, l'installation du gouvernement à Berlin. Au début, c'était un peu laborieux. À un moment donné, il se trouve maintenant les mêmes cercles qu'à Paris. Ça commence à fonctionner de la même façon, comme une vraie capitale. En même temps, la politique, la position de la politique a changé. Il n'y a plus cette peur, cette angoisse de l'Allemagne de l'Ouest, de déranger ses partenaires. Il fallait plutôt les caresser dans le sens du poil, ne pas trop faire valoir ses propres arguments, ses propres intérêts, mais plutôt œuvrer dans le sens de l'Europe pour se faire bien voir. Ça a un peu changé, comme vous voyez maintenant le tandem Merkozy. Vous avez un autre son de cloche et on n'a plus cette obsession de dire, tiens, les Français, il va falloir qu'ils restent de bonne humeur, donc on va faire en sorte à ce que ça reste comme ça. Aujourd'hui, c'est devenu différent. C'est pas uniquement à cause de l'euro et à cause de la puissance économique allemande, c'est aussi une autre conscience qu'ont les Allemands. Et quand vous parlez aux jeunes, pour eux, c'est complètement évident. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est devenu, qui est venu comme ça, mais qui a toujours été comme ça, parce que les jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans, ils n'ont plus vécu cette période dont on vient de parler. Et donc c'est quelque chose qui pour eux va de soi, tout à fait. Donc, vous voyez là, quand on regarde que les générations changent, on a aussi quelques évidences qui font que aujourd'hui les relations franco-allemandes sont plus ce qu'elles étaient, c'est-à-dire ce n'est plus le couple franco-allemand, c'est peut-être le vieux couple peut-être parce qu'on se connaît très bien maintenant. Il y avait l'axe franco-allemand aussi comme terme qu'on utilise souvent, le moteur franco-allemand. Bon, moteur, aujourd'hui, on va voir le moteur, si ça continue à bien marcher. Le moteur, si ça peut entraîner toute l'Europe, très bien. Mais un dernier mot sur la publicité. Si vous voulez vraiment apprendre quelque chose sur l'état actuel des relations franco-allemandes, regardez la publicité. Vous avez un très bon exemple actuellement en France avec la publicité Renault et la publicité Opel. Mais ce n'est pas le premier. C'est déjà, il y a 20 ans ou 30 ans, ça existait. Je me souviens très bien d'une publicité Bonduel. Vous êtes très concerné parce que c'était le maïs. Le maïs qui est en marche, c'était une marche autrichienne illustrée par le maïs qui marche, donc c'est les épis de maïs qui marchent vers une boîte, qui rentrent dans la boîte se ferme et tout ça, c'était dessiné par le dessinateur alsacien Tommy Ungerer qui est sur les deux cultures, un cheval sur les deux cultures. Et ça marchait très bien parce qu'avec le maïs français qui va en boîte sur une musique allemande, ça faisait appel aux réflexes de qualité et aussi d'ordre et de soins apportés au produit, avec un clin d'œil, parce qu'il y avait toujours un petit dernier qui arrivait trop tard et qui était ramené à l'ordre par les autres. Donc cette conception d'une publicité qui fait des clins d'œil, ça existait déjà il y a 30 ans, et aujourd'hui avec Opel et Renault qui s'imitent et qui font dans le franco-allemand, parce que c'est l'un qui parle un français imprégné d'allemand, l'autre qui parle carrément allemand et qui sous-titré, c'est quand même très fort. Volkswagen fait des choses aussi dans ce genre, surtout en radio. Et donc vous avez aujourd'hui une conception qui est plutôt européenne, mais qui est aussi franco-allemande et qui dépasse les clivages et qui regarde un petit peu avec une ironie tournée vers son propre pays. Et c'est vraiment très bien ça. Je trouve que c'est vraiment... Ça donne lieu à un optimisme. Et si vous voulez vous-même faire des expériences, bien, la seule chose qui reste à faire, c'est de voyager. Je ne sais pas s'il y a déjà un EasyJet pour Munich ou pour Berlin, ou quelque chose comme ça. Ça reste à venir, il va falloir le demander. Donc, si vous voulez dépasser vos idées reçues, ben, voyagez, allez-y. C'est ça que je voudrais vous dire pour vous encourager. C'est ça. Merci beaucoup de votre attention.
Nous avons été privés du film institutionnel. Une jeune étudiante avait trouvé sur Google le film, un extrait de 5 minutes, vous pouvez le regarder chez vous, donc de 6 bons amis sur Google, une étudiante de l'université l'a trouvé. Compte tenu de l'immensité du sujet et compte tenu de l'angle d'attaque qu'a choisi notre ami, je pense que ça va déclencher quand même pas mal de questions, puisque vous l'avez traité de manière assez subjective, très personnelle, pas du tout institutionnelle. C'est traité très original, mais je pense que ça va déclencher des questions. Vous êtes prêt à y répondre? Vous répondez dans celui-là. Okay.
J'ai séjourné en Allemagne deux fois 2 ans, une fois dans la région de Fribourg, une fois dans la région de Trèves. Et ce qui m'a frappé, moi, en Allemagne, je trouve que c'est un paradoxe. J'ai trouvé que les Allemands étaient vieille France. Et, oui. Et écoutez, je vais vous en donner un exemple. Prenez un bal. Vous allez dans un bal, dans un grand bal, je dirais, de haut niveau. Non, celui que j'évoque, par exemple, c'était à Sigmaringen, chez les Hohenzollern. Et donc, vous avez toujours, dans le bal, il démarre par un certain nombre de danses qui sont très courtes au début. Et ensuite, après, elles sont plus longues. Pourquoi ? Les premières s'appellent les danses de politesse. C'est-à-dire, ça permet aux hommes de se débarrasser des danses qui, disons, les intéressent moins. Et après, on passe... j'ai trouvé... Et vous avez beaucoup de choses comme ça en Allemagne. C'est très curieux. Autre chose également, c'est le caractère collectif des Allemands et alors très individuel des Français. Quand vous allez en Allemagne dans un café, dans un restaurant, n'importe où, s'il n'y a plus de place, et puis qu'il n'y a plus que des places à votre table, un Allemand ou une famille allemande n'hésite pas à se mettre à votre table, à vous demander l'autorisation, très gentiment, et de façon très sereine, et ça ne choque absolument pas, c'est tout à fait normal. C'est ce que je vois en particulier dans cet aspect. Dans tous les cafés et restaurants, vous avez la Stammtisch, c'est-à-dire c'est la table de... C'est la table conviviale, c'est la table à laquelle se réunissent les habitués. Vous voyez, il y a énormément de choses comme ça. On pourrait en parler pendant des heures.
Oui. Ah non, il y a un truc qui marche, profitons ça.
Ne ment pas de
précise. Au moment de la réunification, on a dit que les Allemands avaient mis la main à la poche pour leurs impôts et qu'il y aurait eu 7% d'augmentation d'impôts pour tous les Allemands pour payer la reconstruction de l'Allemagne de l'Est. Quels seraient ?
Alors, les chiffres sont très exacts et ça existe toujours, c'est le Zoli qu'on appelle, et ça équivaut au trou de la sécurité sociale française.
Autre question ici.
Et oui, vous avez bien montré que l'avantage des écoles maternelles et des jardins d'enfants en France, qui permettent aux Françaises de travailler et de faire des enfants, mais la conséquence, c'est la démographie. Et vous n'avez pas du tout parlé de la démographie. Alors que la France est une population qui se renouvelle naturellement.
C'est plus d'enfants.
La seule pays avec
l'Irlande, c'est le problème.
L'Allemagne est très loin de ça.
Ouais, c'est ça. Et ce qui était étonnant, c'est que dans les années 50, c'était l'inverse. C'était la natalité française qui était plus faible que la natalité allemande. Et actuellement, mais évidemment, tout le monde, tous les experts sont d'accord. L'Allemagne, dans l'état actuel de la natalité, a besoin d'immigration pour pouvoir continuer à fabriquer.
C'est un problème.
On manque d'ingénieurs, on manque de personnel soignant, on manque de... Bon, parce que la démographie est comme ça aussi.
Il y a beaucoup d'hommes qui veulent créer une famille.
D'enfants en Allemagne, donc les chiffres sont parlants. Il y a plus de 2 enfants en moyenne en France et il y a à peine 1,5 en Allemagne, donc, en moyenne. Donc évidemment, ça pose des problèmes. Ça pose aussi des problèmes de qui va payer la retraite, c'est sûr. Bon, là, les deux pays sont à peu près au même niveau parce que bon, la moyenne d'âge augmente aussi en France et c'est grosso modo les mêmes problèmes, sauf que l'impact est encore plus rude en Allemagne qu'en France.
Est-ce que
vous avez
un système d'allocation
familiale ? Oui, tout à fait. Oui, non, mais c'est aussi cette façon aussi d'avoir abandonné le noyau familial qui laisse aujourd'hui plein de... Je peux en parler parce que ma fille, elle est comme ça. Elle a 31 ans et fonder une famille, non, pas besoin. Elle va vivre seule, elle va continuer pour l'instant, on va voir, mais elle va continuer à vivre seule et être à Berlin. Et vous avez évidemment un tissu urbain beaucoup plus dense qu'en France. Donc cette vie urbaine, elle mène à ça. Elle mène à la décision que, par exemple, vous avez comme à Paris, dans la plupart des villes allemandes, vous avez beaucoup de ménages où il y a une seule personne. Et donc il y a beaucoup moins de couples, il y a beaucoup moins d'enfants. Ça va encore continuer comme ça parce que la vie sociale actuelle, elle est comme ça.
Ma question visait également la démographie, mais vous avez dit qu'il y aurait encore une différence de mode de vie entre l'Ouest et l'Est. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une différence de natalité entre l'Est et l'Ouest ?
Il y a une différence de natalité, mais qui est plutôt en faveur de l'Ouest, parce que vous avez à l'Est, vous n'avez pas envie de fonder une famille. À l'Est, il y a très peu de jeunes aussi qui restent, la plupart vont plutôt à l'Ouest, et ceux qui restent ne sont pas vraiment les plus qualifiés. Vous avez dans une ville comme Görlitz, qui se trouve à la frontière avec la Pologne, dans le sud-est de l'Allemagne, la ville et la région a décidé de construire un IUT tout neuf pour garder les jeunes, parce qu'il reste que 10% des jeunes à l'âge de 19-20 ans quand ils rentrent en formation secondaire. 90% de ces jeunes quittent la ville parce qu'elle est trop lointaine des autres centres de l'Allemagne. Donc,